Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, quelle introduction! Bénis mon âme avec joie, hein? C'est vrai que ça fait du bien. Et quand notre cœur est rempli de gratitude, de reconnaissance, eh bien, c'est formidable. Et j'ai vu et j'ai entendu que vous chantez bien. Ah oui, vous avez un maître de chant extraordinaire. Où il est? Il est parti? Ah, il est là. On l'a mis dans la petite salle de... Voilà. Voilà, alors vous avez vos Bibles, et si vous ne l'avez pas, ben, vous écoutez. C'est plus simple, peut-être. Alors j'aimerais justement que nous ouvrions un texte. L'originalité de ce passage, c'est qu'on peut éventuellement faire une petite analyse, une petite étude de l'Église. Oui, c'est un corps vivant, du moins je l'espère, hein. Parce qu'au milieu de nous, eh bien, il y a le Seigneur, c'est lui qui est le souverain au milieu de nous, c'est lui qui nous inspire. Et il est bien de pouvoir eh bien, connaître un peu différentes tendances, différents aspects de l'Église. Et je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais moi je pense que vous êtes forcément posé. On vit quand même dans des drôles de temps. C'est pas vrai? Alors... Il ne se passe pas une journée, une demi-journée, sans qu'on ait des informations, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On est abreuvé de toutes sortes de choses qui peuvent nous amener à réfléchir. Et où est la place de l'Église dans tout ça? Alors nous, nous avons des convictions. Nous avons comme référence et principe de notre foi, eh bien la parole de Dieu, c'est vrai. Et je voudrais commencer, j'ai amené une pièce de monnaie. Vous la voyez? Alors, c'est un franc de 1979. J'ai retrouvé ça. Je me suis dit, c'est un trésor. J'en ai d'autres, beaucoup d'autres. Enfin, je ne vous en dis pas plus. Il y a un côté pile et un côté face. Alors, moi, ce que je vois, c'est que le premier côté, c'est... tout simplement l'indication numérique, c'est 2 euros. Hein. Ça fait combien aujourd'hui? Non, 2 francs. Oui, je mets les choses à l'envers. Hein. Mais comme de toute façon, ça doit être à l'envers aussi. Alors de l'autre côté, c'est véritablement la Marianne Faucheuse. Vous vous souvenez de ça? C'est vrai? Bon. Alors on va... J'ai titré mon message « Pile ». Ou face. Je vois que vous connaissez vos classiques. Alors c'est bien. Donc on va commencer par cela. La première chose que je voudrais introduire, pile ou face. Le message que nous allons partager ensemble nous offre 3 aspects du service, c'est-à-dire l'engagement, la mission de l'Église dans le monde dans lequel nous sommes. Alors naturellement vient à votre esprit... les grands classiques qui sont enseignés à chaque fois que nous nous retrouvons, parce que nous n'avons pas été sauvés pour nous-mêmes seulement, mais nous avons été sauvés pour servir. Et c'est important de le rappeler. Alors il y a un premier aspect, ce sont des titres que je vais donner au départ, et après on va faire le développement, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Ah, dispersion de l'Église. Ce sont des chrétiens qui ont fait... assurément, profession de foi, baptême, confession de Jésus-Christ, acceptation de Jésus-Christ, voire peut-être davantage, l'expérience d'une nouvelle naissance, et peut-être, pourquoi pas, parce que ça fait partie tout à fait de notre famille, le baptême du Saint-Esprit. Et j'ajoute dispersion. Alors, il y a 2 considérations à prendre. C'est qu'il y a la dispersion sur le plan de l'Église locale géographique, mais je n'entends pas les choses uniquement sur ce plan-là, bien que ce soit important. J'entends dispersion lorsque il y a véritablement un abandon de la vie spirituelle par rapport à la personne de Jésus-Christ. Vous comprenez ? Donc, deux considérations. Le deuxième point, après avoir donné ce titre « dispersion », il y a ceux qui se cachent pour servir. Et on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et je vous donnerai naturellement des versets à l'appui. Et puis, ceux qui servent le Seigneur pour être vus. Vous voyez, il y a toute une palette là, hein, ceux qui sont dispersés ou peut-être la vie spirituelle est en baisse. Puis bon, voilà, ils se disent, ben, ça va bien faire avec, hein, on va faire comme ça, on est chrétien et puis ça ne va pas plus loin. Et puis il y a ceux qui se cachent pour servir, vous comprenez, parce qu'il y a en effet quelque chose de tout à fait particulier, un texte dans la Bible qui parle de cela. Puis alors ceux qui, comme du temps de Jésus, israélites, orthodoxe jusqu'au bout des doigts, des ongles, nous pourrions dire, dont Jésus a dénoncé. Ils sont israélites, ils sont toujours fourrés dans le temple, excusez-moi le mot, hein, mais finalement Jésus va les dénoncer comme les principaux opposants à Dieu. Alors, on va voir ça. Alors, je vous invite, en ce qui concerne le propos de la dispersion, dans Juges, chapitre 5, verset 6. Alors, le livre des Juges, c'est un livre très... Comment dire ? C'est un livre qui fait suite à la sortie, très longtemps après, naturellement, d'Égypte, et qui, quelque part, c'est vraiment très inconstant dans le livre des Juges. Oui, on peut dire que la vie d'Israël est très inconstante. Et voilà. Alors, il y a cette parole, Juges 5, verset 6. Au temps de Shamgar, alors Shamgar c'était un juge en Israël, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Et puis un peu plus loin, toujours dans le même chapitre, il est dit ceci. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Rubin. Grandes furent les résolutions du cœur. Et avec cette question, pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Rubin ? Alors, grandes furent les délibérations du cœur. Il y a là quelque chose de significatif. Il y a certainement... ce qui doit nous interpeller aujourd'hui. Vous avez remarqué avec moi, et on va le reprendre mot par mot, par exemple, c'est le constat d'un phénomène actuel que nous voyons dans notre monde, dans la généralité, certainement, des religions chrétiennes. Je ne dis pas, hein, parce que l'islam est en hausse, hein. Le bouddhisme, ça marche bien, et puis dans d'autres, l'hindouisme, si, mais je parle au niveau... Chrétien, et avec toutes, naturellement, les considérations, les dénominations, les appellations et tout ça. Donc, je rappelle, il s'agit d'un phénomène actuel, puisqu'il nous est dit que les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Ça nous dit quelque chose. Hein. Alors, c'est vrai que quand on regarde la journée d'hier, les routes n'étaient pas abandonnées. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Mais pas pour une raison qui, finalement... intéresse Dieu. Tout le monde n'allait pas à l'église hier. Bon. Mais enfin, bon, toujours est-il qu'il nous est bien précisé qu'en Israël, à ce moment-là, période de troubles, période d'instabilité politique, spirituelle, religieuse, morale et tout ce que vous voudrez, ça a duré 430 ans. On a dit que le livre des juges, c'était le Moyen-Âge d'Israël. Et il pouvait s'en passer des choses affreuses aussi. Hein. Mais, qui, quelque part, eh bien, on le revoit encore aujourd'hui, le problème n'a jamais été solutionné. Donc, elles étaient abandonnées. C'est une triste réalité que notre monde d'aujourd'hui. Et si nous nous cantonnons seulement, comparaison Israël et l'Église chrétienne aujourd'hui, y compris l'Église évangélique, peut-être que nous pourrions penser que les routes sont abandonnées. Hein. On a connu d'autres temps. On a vu quelquefois, dans une certaine période, dont je me souviens, où vraiment les églises étaient bondées, hein. Ah oui, il y en avait même dans les couloirs. Ah oui. Mais L'Église a toujours eu ses pentes et ses côtes. C'est pour ça qu'on porte le nom, hein, naturellement. Alors, n'allons pas nous attrister parce que nous sommes en 2021 et qu'il y a, il y a un effondrement. Ça, c'est sûr. Très juste, monsieur. J'ai relevé. Les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Peut-être à cause de l'insécurité de l'époque. Vous savez que dans notre monde, les médias nous relatent tous les jours des assassinats, des vols, hein, d'une manière ou d'une autre, les gens là qui se font cambrioler, etc. L'insécurité, c'est vraiment un sujet primordial. Mais il y a aussi des chemins qui sont abandonnés, ceux où Dieu appelle les hommes « je vous bénirai » et qui, quelque part, quand ils entendent ça, ils préfèrent être bénis par autre chose ou de s'auto-bénir. Voilà. Alors, on a cette proposition. Insécurité de l'époque et résultat, naturellement, les chefs étaient sans force. Israël était sans force. Le peuple était sans force. L'Église était sans force et est sans force. Où sont les miracles d'autrefois? Où en sommes-nous dans la guérison divine? À travers les dons de révélation, les dons d'inspiration, discernement, paroles de sagesse? Où sont les miracles d'autrefois? Les délivrances? Sur l'instant. Et on peut comprendre que les chefs étaient sans force. Et quand on regarde sur le plan politique aujourd'hui, on peut dire que les chefs et les autorités sont sans force. Même les forces de l'ordre n'ont plus de force, puisqu'ils se retrouvent à la place des mécréants et des bandits. C'est terrible, hein, une chose pareille. Mais croyez bien que nous rentrons dans une période, je ne voudrais pas être prophète de malheur, mais ça ne va pas s'arranger. Parce que le monde est fou. Le monde a perdu le sens de ce qui est de l'honneur, des repères, des principes. Et on le voit pénétrer jusqu'au cœur des familles qui deviennent de plus en plus dysfonctionnelles. Et avec, naturellement, parce que ça c'est une semence, mais après ça germe. Oui, on a connu peut-être d'autres temps. Mais on n'est pas des nostalgiques parce qu'on sait que de toute façon c'est le fil du siècle, du monde. Alors ils étaient sans force, qui montre une grave défection de l'autorité et la perte des repères. Eh oui, on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal. La vérité, il y a quelque chose qui nous dépasse, et vous n'êtes certainement pas étranger à la chose. On vit dans un monde de consumérisme, où le marketing est omniprésent et on n'est pas sans avoir remarqué que le marketing, ce n'est pas la vérité. C'est un mélange de vérité et de mensonge pour l'augmentation, l'accroissement du profit. Souvent à notre dépens, parce que si vous lisez les étiquettes sur les produits, vous verrez que c'est pas triste. Hein. Ouais. Alors, on est dans ce temps, mais moi, je suis en train de faire un rapport avec notre temps, parce qu'on pourrait dire, mais voilà, ça existe que maintenant, mais pas du tout. On est en train de se tromper. Israël est en quelque sorte, on pourrait dire, le jalon, le test, le signal pour nous dire, mais attendez, hein, ça s'est fait avant vous. Hein, ça s'est fait avant vous. Ça s'est souvent mal terminé, d'ailleurs. Hein, parce que quand le monde est sans frein, quand les politiques n'arrivent plus à gérer, je parle des politiques qui ont le sens du bien public. Hein. Je ne parle pas de tous ceux qui sont là sur les côtés pour démolir, négatifs, mais qui n'ont pas le sens de la positivité. Alors il est dit un peu plus loin, donc les forces étaient sans force, qui montre que nous sommes dans une société. Et nous sommes également dans un monde d'église évangélique, où là on voit des choses assez aussi étonnantes. Hein. Où les responsables d'église sont sans force, sont mous. On a oublié que leur mission est une mission de l'esprit et qu'il a petit à petit s'apesantissent ou s'endorment dans le côté religieux en oubliant le côté de feu et de flamme qu'est la vie du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dangereux, même plus que dangereux, naturellement. Les chefs étaient sans force. Et comme s'il y avait comme une interpellation de la part de Dieu, il est dit, mais pourquoi es-tu resté au milieu des étables ? Moi, je t'avais placé sur un trône. Moi, je t'avais placé dans une position de vie. Je t'ai placé dans une position où, véritablement, tu dois faire la preuve, eh bien, d'une nouvelle naissance et d'une résurrection. Mais pourquoi es-tu resté ? Le mot, le verbe rester, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on s'est installé, on n'a pas cherché plus loin, et quelque part on s'est endormi. Mais ça, c'est la Odyssée dans le livre de l'Apocalypse. Vous connaissez, vous relirez le texte. Hein ? Tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, je vois clair. Mais tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es misérable, parce que tu as oublié l'essentiel. C'est notre communion avec le Seigneur qui est l'essentiel. Ce n'est pas d'avoir les apparences d'une piété religieuse. Alors pourquoi tu es resté comme ça ? Et pourtant Dieu avait mis le paquet, excusez-moi l'expression, mais quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils ont vu cette libération, quand ils ont vu la mer Rouge, quand ils ont vu cette période où ils ont traversé pendant 40 ans le désert et que Dieu ne les a jamais abandonnés, alors pourquoi tu es resté là ? Tu ne voulais pas aller plus loin ? Mais c'est arrivé très souvent à Israël, devant ses chefs spirituels, de dire on ne va pas plus loin. Ils se mettaient à pleurer dans le désert, en disant mais il nous manque ceci, il nous manque ça. Et bien aujourd'hui la situation c'est qu'il nous manque toujours tout. Et on voit de plus en plus des gens qui élèvent leur voix en disant on n'a pas ceci, on n'a pas cela, etc., etc., etc. Mais oui, mais c'est comme ça. Mais si ça devient pire, je peux vous dire qu'il va y en avoir qui vont vraiment être malheureux. Bon. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables ? C'est intéressant de prendre l'exemple, et ce n'est pas un exemple pour rien. Alors on sait que le peuple hébreu était un peuple pastoral, c'est-à-dire il était berger, nomade, voilà. Pourquoi tu es resté au milieu des étables ? Et l'étable, c'est l'image d'un endroit réservé aux bêtes. Qui parmi nous habite dans une étable ? Dites-le-moi, ça serait intéressant que tout le monde le sache. Nous avons tous des belles maisons, confortables, etc. Eh oui, enfin, on essaie en tous les cas, hein, parce qu'on se donne quand même. Et ce n'est pas défendu. Naturellement, ce n'est pas défendu. Et cela illustre la médiocrité de la vie spirituelle qui s'abaisse de plus en plus. Médiocrité. Il y a le très bon, il y a le bon, il y a le bien, il y a le moins bien, il y a le médiocre. Et puis il y a naturellement tout ce qui vient en dessous, mais bon, je ne veux pas le citer. Médiocrité de la vie. Et c'est vrai que, quelquefois, en entendant certains plaignants chrétiens, on se dit, mais quelle vie ils ont. Et ils ont fait des belles expériences, hein. Moi je ne retire pas cela. Hein. Et qui sont tombés quelquefois dans l'aigreur, dans l'amertume, dans la critique des autres. Ah, il a ceci, mais moi je ne l'ai pas. Ben oui, mais le Seigneur fait des distributions comme il le veut. Mais c'est ça, hein. Et pourtant il nous a promis que si on lui était fidèle, on aurait tout. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié ce passage de l'apôtre Paul ? Alors, médiocrité de la vie. Il faut se ressaisir, mes frères et sœurs. On peut avoir de l'argent, on peut avoir une situation, on peut avoir une belle maison, on peut avoir voilà, tout ce que l'on veut. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Ouais, insatisfaction. Alors, ne chantons pas et ne répondons pas finalement, eh bien là, au chant des sirènes, pour parler comme tout le monde. On doit avoir un autre langage. Quand tout le monde se plaint, eh bien, le chrétien doit dire, eh bien, moi je suis heureux d'avoir Jésus-Christ dans ma vie. Ça a l'air de vous enthousiasmer. Hein. Bravo. Au moins, je parle pour quelque chose. Mais remarquez, je voudrais vous dire, mais je suis un peu comme ça, vous m'excuserez, mais je parle pour moi aussi. Ça vous convient ? Bon. Alors, la médiocrité, voilà la condition d'une étable. Et il est ajouté à écouter le bêlement des troupeaux. Vous savez, quand on va en montagne, il y a des clochettes. C'est formidable, hein ? Oui, c'est beau, hein, ça. Hein. Mais là, il est question, je ne sais pas s'ils mettaient des clochettes à l'époque, mais en tous les cas, il y avait les bêlements. C'est très bucolique comme image, mais ça va tout à fait bien avec la nature même de cet Israël nomade, en quelque sorte. Hein. Et je voudrais vous dire que le bêlement, c'est un langage, c'est le langage inférieur des animaux. Moi, je vois des gens qui parlent avec leur chat, avec leur chien, etc., etc. Mais bon, il paraît que la conversation est assez limitée. Quelques mois, quand je vois un chat, mais ma femme me le dit quelquefois, je me mets à miauler. Eh bien, vous savez que le chat, eh bien, il s'intéresse à moi après. C'est comme les oiseaux. C'est pareil. Quand j'entends, parce qu'on a un arbre, un grand arbre devant chez nous, et quelquefois, quand j'entends des... Mais il y a des beaux chants, hein. Eh bien, moi, je me mets à siffler sur ma terrasse. Pas sur la montagne, mais sur la terrasse. Eh bien, ils me répondent. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que je le fais. Hein. Mais ils témoignent, pour moi. Mais c'est vrai que... Mais ça, c'est le langage inférieur. Et quand on sait que le Seigneur nous a donné le langage opposé, qui est le langage supérieur de Dieu, vous ne croyez pas que c'est autre chose? Et il nous a donné deux langages. Le langage naturel d'homme à notre naissance, que nous apprenons et que nous héritons de nos parents, et il nous a donné un autre langage qui est le langage du Saint-Esprit, le parler en langue. Ça vous va? Il vous manque quelque chose? Eh bien, ça a l'air. Voilà. Alors, la dispersion aujourd'hui. Moi, j'aime bien faire, quand je fais un message, j'ouvre mon dictionnaire, je prends ma grammaire, etc., et puis le vocabulaire, parce que j'aime bien justement... Je trouve que c'est formidable le français. Hein. J'étais nul en maths, mais alors en français, ça allait bien. Bon. Bon, c'est une des qualités d'un pasteur, non, je pense. Hein. On ne va pas faire des mathématiques tous les dimanches matin. Je laisse ma place. La dispersion aujourd'hui, on a lu quelques passages, ça veut dire répandre. C'est-à-dire que finalement, ça s'éparpille. Il y a comme un éparpillement. C'est quelque chose qui est désordonné. C'est quelque chose qui individualise, qui met l'individu de côté. Mes frères et sœurs, on est ensemble. Il y a deux communautés, Redon et Saint-Nazaire. On se serre la main. Moi, j'aimerais et j'aspire à ce que l'on se retrouve comme on l'était quelques mois auparavant, où on avait des agapes ensemble, où on avait des sorties de Seigneur, où on faisait des réunions de jeunesse ensemble, etc., etc. J'espère que je ne vous choque pas, mais... L'une et l'autre, c'est la même unité. En savoir que, de toute façon, si c'est sur le plan économique, hein, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, un véritable union pour financer cette église nouvelle de Redon. Et je crois que, eh bien là, justement, quand il est question de dispersion, il faut faire attention à ça, parce que ça ressemble à une division. Et moi, je ne l'accepte pas, la division. On est là pour être unis, on n'est pas là pour être divisés. On n'est pas là pour faire cavalier seul. On n'est pas là pour mener notre chemin en disant, voilà, ceci et cela. Je dis que ça ne plaît pas au Seigneur. Je suis remonté ce matin. Merci. C'est individualisé. C'est tout simplement fragmenté. C'est morcelé. Et c'est le contraire de casser l'unité. C'est casser l'unité. Que le Seigneur nous fasse grâce, hein, parce qu'il est venu pour autre chose. Soyez un. Comme moi et le Père, je suis un. Et ça, il faut se battre pour ça. Et vous savez, on ne se bat pas contre les hommes, hein, qu'ils aient compris ou pas. On se bat contre des esprits. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. Et on voit cette cassure. Elle est effrayante dans notre monde. Parce qu'on la voit dans le monde social, tout va très bien. On le voit dans le monde médical, les déserts. On parle de déserts, hein, finalement. On s'aperçoit qu'il y a un exode. Les gens des grandes villes veulent venir à la campagne élever des chèvres. Oui, ils refont leur vie parce que ça devient insoutenable, intolérable, irrespirable. C'est l'exode. On peut parler quelque part de fuite. Chacun va de ce côté. C'est la dispersion encore. Hein. Je suis toujours sur le thème. On parle de désert de compétences. On est dans une société aujourd'hui où on ne cherche pas trop la compétence, on cherche la complaisance. C'est pas trop compliqué, hein. Même si les gens ne sont pas qualifiés, c'est pas grand-chose. Et pourtant, on parle de qualification et de formation. Mais qu'est-ce que... Vous savez, on le voit d'ailleurs, hein, et particulièrement dans le cas sensible des églises, c'est pas parce que vous avez une reconnaissance ou une capacité ou un diplôme en théologie que vous êtes pasteur, hein, ou que vous avez fait une école biblique. Hein. Ça fait partie du cursus de connaissance qui est nécessaire. Bien connaître la parole de Dieu, et puis voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il y a un appel au ministère. Je suis bien placé pour le savoir, puisque chaque année, nous avons 30, 40, 50 candidats au ministère pastoral. Et nous sommes préposés avec 12 autres pasteurs, enfin 11 autres, représenter une région de France, pour corriger leur travail écrit. Et on s'aperçoit qu'il y en a qui ont véritablement les deux. L'appel au ministère, et puis ils ont aussi la connaissance. Mais il y en a certains qui ont un très bon dossier, mais ils ne sont pas appelés au ministère, dans la pratique. Et c'est vrai que ça va poser des problèmes. Dispersion. Désert de compétences, désert de service, dilution des proximités. On sépare les gens. On les sépare les uns des autres. Des proximités humaines. Alors, quand il s'agit de l'Église, le verdict, il est simple. Ça amène au sein des communautés des temps d'abattement. Ouais. Les enfants de Dieu, quelquefois, sont abattus. On l'a vu tout à l'heure. D'inertie spirituelle. Pourquoi ouvrir la bouche? Pourquoi louer? Pourquoi venir aux réunions de prière? Pourquoi venir quand il en reste aux réunions d'évangélisation? C'est une forme d'abandon. C'est tourner le dos aux responsabilités. Si je m'engage, mais je ne me dégage pas. À moins que ce soit le Seigneur qui me dégage. Ça, c'est autre chose. Mais pour de bonnes raisons, quelquefois, il nous dégage. Hein. L'absentéisme, c'est pour ça, étable, église. Hein. On peut peut-être, si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que dans l'église, c'est là où on prie. C'est là où on adore le Seigneur. C'est là où on sert Dieu. Et il nous est donné un peu plus loin... Des chemins, ils ont pris des chemins abandonnés. Et nous savons que dans le cas de Livre des Juges, il y avait quelque chose de très caractérisé, c'est que il y avait toute une, on pourrait dire, une spiritualité parallèle. Oui, parallèle. Et nous savons que dans le texte que nous allons lire, qui est véritablement l'histoire d'Élie, Élie le prophète, quelques temps avant, quelques jours avant, il avait trucidé 430 prophètes de Baal. Donc, ce n'était plus le Dieu d'Israël qui était le Dieu qu'on adorait, mais c'était les prophètes de Baal qui amenaient, finalement, eh bien, le peuple d'Israël à dérailler, à dévier pour aller adorer Baal. Et aujourd'hui, on ne sait plus tellement où on en est. Hein. Voilà, chemin abandonné. Dieu avait dit, voilà, à travers l'Ancien Testament, voilà mes lois, voilà ceci, cela, avec des conditions tout à fait explicites. Hein. Si vous me restez fidèle, eh bien je vous bénirai vos générations, etc. Mais si vous m'abandonnez, ben vous allez voir un peu le résultat. Vous saurez que vous êtes maintenant en dehors du plan de Dieu. Chemin abandonné. Donc on a parlé d'idolâtrie d'Israël. Mais est-ce que nous ne pouvons pas parler aujourd'hui, et vous allez certainement comprendre... Est-ce que nous ne pouvons pas parler également des chrétiens et de leurs idoles modernes? Ah ouais. Alors, je ne vais pas citer tout ça, hein, parce que vous les connaissez hein, sous le bout des doigts, mais il y a naturellement eh bien, ce genre de phénomène qui se développe de plus en plus. Dieu nous donne de bénéficier de beaucoup de choses pour que nous puissions le bénir et le louer, et non pas de ce qu'il nous a donné, lui le donateur, nous qui recevons les dons, de faire de ces dons une idolâtrie. Alors à ce moment-là, on voit que le monde est en train véritablement de s'infiltrer, et c'est plus qu'une infiltration. Hein, c'est... Alors résultat des courses, si je peux m'exprimer d'une manière triviale, eh bien, ils n'avaient plus de force. Israël n'avait plus de force. Les chefs n'avaient plus de force. Et quand les pasteurs perdent leur force, quand ils perdent leur vision, quand ils perdent tout simplement ce que Dieu leur a confié, tant dans la connaissance de la parole que dans le management, j'aime pas le mot, mais dans la gestion d'une église, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui reste ? Dispersion, tout le monde s'en va un peu de chaque côté, et chacun se fait un petit peu, eh bien, son affaire, sa petite religion, tout simplement. Que d'énergie gaspillée, à tort et à travers, qui ne sert à rien. Que de lassitude, nous voyons dans les églises. Que d'efforts, lassitude de la foi, à quoi ça sert ? Que d'efforts dans la vie spirituelle qui amènent qu'à la nonchalance, à l'apathie, au désintérêt, parce que le contraire, c'est le zèle. Quand il est dit, le zèle de l'Éternel, le zèle de Dieu, soyez zélés pour le Seigneur. On a connu des générations, je peux vous dire, que ceux qui ont été, tous ceux qui ont travaillé pour, nous donner, nous les descendants, un héritage. Je peux vous dire que ce n'était pas tout à fait la même chose. Dans leur fidélité, dans leur consécration, dans leur engagement pour le Seigneur. Pourquoi es-tu resté à écouter ? Alors on avait parlé tout à l'heure finalement des chemins abandonnés. On avait parlé finalement de la perte de force. Mais pourquoi tu es resté, dit Dieu, à écouter ? Qu'est-ce que tu écoutes ? Quelle est ton attention ou quel est ce que tu aimes entendre ? Il y a des chrétiens qui sont quelquefois pas contents parce que quand ils viennent voir le pasteur, ils voudraient entendre ce qu'ils aimeraient entendre que le pasteur leur dise. Eh bien, ça nous pose un sacré problème. Alors, écrivez-moi un mail avant pour que j'arrive à décoder et puis que je vous dise ce que, véritablement, vous avez envie d'entendre. Ben oui, puisque vous voulez. Mais attention, il y a un danger. Il y a un grand danger dans cette affaire. D'ailleurs, moi je crois qu'il y a quand même peu de pasteurs conséquents qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Maintenant, on peut le dire de différentes manières. Quelquefois, il y a eu des réponses pastorales qui étaient très brutales, qui étaient sans amour et sans... Voilà, tout simplement. Et quelquefois, manifestant l'énervement ou l'agressivité. Ça, c'est pas bien. Il nous est demandé de pouvoir reprendre, même celui qui se trompe, même gravement, mais avec douceur. Pour lui faire comprendre, parce que c'est pas dans l'agressivité que les choses rentrent. Si vous voulez essayer de faire rentrer quelque chose, en lui tapant sur la tête avec vos poings, ça rentre mal. Restez à l'écouter. Restez à écouter la parole de Dieu, d'accord. La parole de Dieu qui est délaissée au profit d'appels séducteurs du monde, c'est là justement le danger, les fausses doctrines. L'apôtre Paul nous prévient, il nous dit, attendez, il y a un danger dans tout ça. Et quel genre de bêlement le monde nous fait-il entendre ? Le monde bêle. Eh oui, il nous fait entendre toutes sortes de choses, plus ou moins séducteurs. Et quelquefois, il y a des chrétiens qui optent pour ça. La deuxième chose, j'aurai pas le temps de tout vous raconter ce matin, parce que Mais on se reverra, vous ne tracassez pas. Normalement, on doit se revoir. Dieu voulant, j'ajoute toujours ça. Alors maintenant, on va prendre le deuxième aspect, pile. Ça, c'était pile. C'est tout simplement, la dispersion. On va prendre maintenant la question qui va être soulevée, c'est les ombres et les projecteurs. Voilà. Où nous nous situons-nous ? Et je vous propose, dans 1 Roi, chapitre 19, verset 18, 1 Roi... Chapitre 19, verset 18. Et il est dit ceci. Ou verset 13, par exemple. Voilà. Ça vous situera davantage. La deuxième partie du verset 13, ça se complique. Et voici une voix fit entendre ces paroles à Élie. Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » C'est ce qu'on vient de dire. « Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. » Et dans un grand désespoir, Élie ajoute, « Et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, etc., etc. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 18. Mais Dieu fait une promesse formidable à Élie. Elle est pour nous aujourd'hui. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche n'a point baisé. Voilà. Il y a des versions un petit peu différentes que je vous lis simplement pour mémoire. Il y a Chouraki dedans, il y a version moderne, etc. Autre version de ce texte que nous venons de lire. Dieu dit, je laisserai survivre. C'est pas vivre. Donc ça va pas bien. Mais après une survie, on peut revivre. Voilà, une renaissance. Je laisserai survivre. J'épargnerai, dit Dieu à Élie, 7000 hommes du peuple israélite, naturellement, savoir ceux qui ne se sont pas mis à genoux. Là, il y a une connotation d'adoration. D'autres textes nous disent fléchis les genoux, ployez les genoux devant Baal, et dont la bouche ne lui a pas adressé des hommages, qui n'ont pas donné des baisers à ses statues. Donc, ça c'est le deuxième aspect. Ce que je pourrais appeler les fidèles de l'ombre. Alors, il y avait les fidèles israélites dans la première partie que nous avons vue, les fidèles qui se défilent, on pourrait peut-être dire, hop, ils s'en vont dans tous les sens, etc. C'est une partie de l'Église, hein. Ça peut être ça aussi. Mais là, je vais les appeler ceux qui servent Dieu dans l'ombre. Et vous allez voir que quand Dieu dit « j'en ai mis de côté », c'est qu'ils existent. Ils existent dans l'Église de Saint-Nazaire. Et je vous connais. Ils existent dans les communautés, peut-être ailleurs, dans d'autres dénominations. Ils existent aussi dans le monde. Et moi, je voudrais vous dire, avec l'enthousiasme et l'enthousiasme qui est le mien, c'est qu'il y en a plus de 7000. Et heureusement, il y en a plus de 7000. Les fidèles de l'ombre, qui sont-ils? Ce sont les invisibles qui contribuent en silence à faire briller le nom de Jésus. Ouais. C'est pas une église qu'ils défendent. C'est pas une chapelle, c'est pas une cathédrale. C'est pas une dénomination, c'est pas un mouvement. Mais comme dans le temps d'Élie, c'était l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et je vais le mettre sous un autre aspect, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, à faire briller le nom de Dieu, et à mettre en lumière, bien que Dieu soit lumière, c'est mais néanmoins, c'est pas mettre sous le boisseau en tous les cas, et à les mettre en lumière. Je voudrais vous donner comme exemple une scène de théâtre, ou une comédie au théâtre, par exemple. Vous savez qu'il y a un artiste, qu'il soit chanteur, qu'il soit humoriste, enfin peu importe, ou une pièce, peu importe. Vous savez combien il y a de personnes derrière les rideaux? Il y a une foule devant, spectateurs, qui sont là, qui sont venus pour se délecter de la culture. Mais derrière, eh bien justement, ce sont ces gens-là qui sont à l'arrière, et tout ce monde de techniciens, derrière les rideaux baissés, qui font et contribuent au succès d'un seul. Et dans l'Église, comme du temps d'Élie, il y a des frères et des sœurs, jeunes convertis ou plus anciens, peu importe, mais qui sont peut-être derrière un rideau invisible pour faire connaître le nom de Jésus. Ils ne se mettent pas en avant, eux. Ils mettent Jésus en avant, sa parole, ses actes d'amour, sa puissance surnaturelle, miraculeuse, mais ils restent en arrière. Et moi, je pense que si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez envie de présenter Jésus. Et permettez-moi, c'est un peu trivial, mais l'artiste, c'est Jésus. Et oui! Et tous ces gens, avec leur spécialité de technicien, électricité, scénariste, enfin bon, c'est un monde que je ne connais pas. Mais toujours est-il, tous ces gens-là tendent quelque part, eh bien, dans ce sens, pour un seul. Et dans l'univers du spectacle, les applaudissements et les récompenses vont aux étoiles. Ben, ceux qui, dont on vient de parler. On va peut-être citer les noms à la fin de la pièce de théâtre, un tel scénariste, voilà, accessoiriste, enfin bon, peu importe. Mais il n'y aura que le nom, les gens ne les connaîtront jamais. Mais par contre, à travers ce travail rassemblé, uni, alors à ce moment-là, on saura qui est celui qui a été véritablement l'objet des applaudissements, des félicitations et de tout ça. Quelquefois, c'est une explosion d'applaudissements. C'est extraordinaire. Parce qu'il y en a d'autres derrière. Et moi, je pense que l'Église chrétienne aujourd'hui, ça doit être celle-ci. Hein, on peut dire qu'on est des techniciens, mais quelque part, heureusement que vous êtes là. Parce qu'autrement, l'Église serait déjà fermée. Ou alors, si elle n'est pas fermée, elle va être ronronnante, elle va être complètement assoupie, et les gens diront, bon, on ne va pas là-dedans parce que c'est la mort. Moi, je vais mal finir un jour. Ben, je finirai comme tout le monde. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tous ces gens-là, ces petites mains que l'on appelle ces petites mains et ces assistants, restent ignorés dans les coulisses. Et nous, on n'a pas besoin de dire « nous sommes évangéliques, nous sommes pentecôtistes, nous sommes au 21 Rudy près, et il n'y a que nous, il n'y a uniquement que nous, il n'y a que cette église qui est véritablement la représentation de Dieu à Saint-Nazaire. » Alors, excusez-moi, mais on n'a rien compris au cinéma, hein, au film, excusez-moi. Non, c'est Jésus. Et si les gens doivent parler de nous, en tant qu'église évangélique, ils doivent parler qu'on les reconnaît pour avoir et pour être avec Jésus-Christ, et c'est tout. Comme dans le passé, dans le royaume de Dieu, Jésus nous dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors attendez-vous à tous ceux qui sont sur le bord des chaises d'aller derrière la prochaine fois, pour avoir les premières places après. Hein? Non, mais je plaisante. Mais c'est Jésus qui le dit, hein? Et vice-versa. Travail méconnu mais indispensable, cependant remarqué, et là c'est justement l'encouragement que j'ai besoin de vous donner, qu'il faut vous donner. Cependant, remarquez devant Dieu, celui qui voit et qui n'oublie personne, même les plus cachés. Il y a des frères et des sœurs qui s'occupent du ménage, d'autres qui s'occupent peut-être des réfections, à travers le fonctionnement de l'Église, la propreté des sanitaires, et toutes sortes de choses, toutes sortes de petits boulots, toutes sortes de travail, et qui ne décrochent pas, tous ceux qui font les écoles du dimanche, enfin le club des enfants, et qui sont là. Mais non, mais devant Dieu, vous êtes aussi important que le pasteur. Je vous dis ça parce que je suis à la retraite. Mais non, vous êtes aussi important et plus important devant Dieu que même les pasteurs. Parce qu'on est tous ensemble, il n'y a pas une supériorité. Chacun a sa particularité et peut-être il a reçu quelque chose. Mais vous n'êtes jamais oublié. Je donne encore un autre exemple, puis je vais bientôt m'arrêter. Et quand je dis que je m'arrête, je vais m'arrêter. Sur un navire, et là on est bien placé pour savoir, pour avoir une idée, hein, les gens qui n'ont jamais vu la mer, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est qu'un navire. Mais bon, peu importe. Ben non, ils connaissent les barques. Sur un navire, le capitaine ou le commandant est le personnage le plus évident, mais qu'en est-il de l'équipage des matelots au fond de la cale? Vous les voyez? Quand passent les grands bateaux là, et puis attention, il y a des tankers d'importance. Hein. Alors on ne voit pas le capitaine, parce qu'on s'aperçoit qu'il est quand même dans le château. Vous savez ce que c'est que le château sur un tanker, hein. Alors on ne voit pas, parce que c'est très loin. Mais moi je pense toujours, quand je regarde ça, je me dis, mais les mécaniciens, tous ceux qui sont préposés au service pour que le bateau fonctionne, qu'ils prennent la mer, que ça soit en sécurité, etc. Mais on n'entend jamais parler de ces gens-là. Et pourtant, s'ils n'étaient pas là, je peux vous dire que le capitaine, il courait de droite et gauche, hein, pour faire tout le boulot. Hein. Ben oui. Eh bien, c'est un petit peu la même chose dans une église. Il y a ceux qui sont à l'ombre, ceux qui sont dans l'ombre, et qui ont une importance essentielle. Puis il y a celui qui se montre. Parce que bon, c'est sa fonction, tout simplement. Mais on peut se montrer, mais là, c'était la prochaine étape, et je vais m'arrêter. Parce que je voulais vous dire, tous ceux qui se présentent, je vous ai donné en titre, tous ceux qui veulent se montrer pour être vus et applaudis. On verra ça une prochaine fois. Alors donc, dans une église, ou dans l'église, il y a aussi les invisibles, les travailleurs de l'ombre, qui s'acquièrent fidèlement des tâches souvent les plus obscures, des tâches ingrates. C'est aussi à ceux-là, hors projecteur et regard d'autrui, que Dieu réserve, les promesses, ses promesses et les reconnaissances au temps voulu. Et j'en arrive tout simplement à citer deux passages pour nous montrer que vous n'êtes pas oubliés, vous qui travaillez pour le Seigneur, vous qui voulez maintenir en vie cette Église, vous qui participez à la louange, à l'adoration, aux réunions de prière. Tiens, je rappelle, c'est le mercredi à 20h. Voilà, au passage, hein, voilà. Mais toujours est-il que moi, je viens maintenant un peu plus souvent, mais une chose qui est certaine, c'est que je le dis souvent à ma femme, je lui dis, mais on a eu une bonne réunion de prière, parce qu'il n'y a pas de trou. On prie les uns et les autres, les uns après les autres, et je me dis, mais même si on est 5, 6, 10, on ne va jamais au-delà. Mais toujours est-il que, si vous voulez venir, vous serez le 11e ou le 12e, et on vous y invite. Mais en tous les cas, nos prières, nos réunions de prière, elles ne sont pas vidées de contenu. Et il y a des prières qui sont véritablement et toutes inspirées du Saint-Esprit. C'est vivant. Et c'est grâce aux uns et aux autres qui, animés par votre participation, parce que vous ouvrez la bouche, que vous faites vivre cette Église. Et on ne cédera pas, on ne veut pas que cette Église, elle soit étouffée ou elle disparaisse parce qu'il n'y a plus de vie. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, mais je sais que vous êtes d'accord avec moi. Ça, c'est sûr, hein. Parce que nous, on a envie de revoir un nouveau printemps, un nouveau souffle. Parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Moi, j'en ai la conviction, hein. Même à mon âge canonique, je voudrais voir encore quelque chose avant de mourir, hein. Alors, 1 Corinthiens 15, 58, et on va mettre un terme à tout ça, à la prédication. Alors, 1 Corinthiens 15, 58, écoutez bien, ce sont des paroles que vous connaissez, mais des paroles extraordinaires, formidables, qui nous sont données par l'apôtre Paul, qui, lui, n'était pas prêt de lâcher, finalement, eh bien, là, son bâton de pèlerin, hein, de missionnaire. « Ainsi, mes frères bien-aimés, il y a le langage d'une reconnaissance d'amour, hein, de Paul à ses Corinthiens. Soyez fermes. » Comment ? C'est 15, hein ? 58. Alors, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, et pas de plus mal en plus mal, hein, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer. Que nous soyons au fond des cales, ou que nous soyons derrière les rideaux, peu importe, nous travaillons pour le Seigneur et c'est pour sa gloire que nous le faisons. Et puis, un dernier texte dans Hébreux chapitre 6, et là il est bien aussi ce texte, parce que Hébreux chapitre 6 et verset 11, verset 9, on va commencer. « Quoique nous parlions aussi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce, parce que je crois que nous sommes mis encore devant nos responsabilités. Vous êtes venus pour le Seigneur. Vous avez une quelconque, peut-être, attribution dans cette Église ou fonction dans cette Église. Eh bien, continuez à servir le Seigneur. Et vous ne le faites pas devant les hommes. Vous ne faites pas ça pour faire plaisir au pasteur, mais vous le faites pour la gloire de Dieu. Celui qui doit être présenté, c'est Jésus. Et il ne doit pas être seulement présenté pour nous, mais il doit être présenté pour le monde entier. Et Dieu bénira son Église. Parce que Dieu ne va pas l'abandonner, son Église. Il y a des hauts et des bas. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent quelquefois nous troubler et nous poser des questions. Eh bien, moi, je vous dis que on n'est pas de ceux de la dispersion, d'accord ? Mais on est de ceux qui, quelque part, eh bien, nous voulons véritablement, même si nous sommes dans l'ombre, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'intérêt du peuple de Dieu, l'intérêt des frères et des sœurs, et l'intérêt à la gloire de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Alors, on va prier quelques instants, si vous voulez. Et merci de votre écoute attentive. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons qu'en effet, Seigneur, tu nous rappelles des choses qui sont, nous les savons de toute façon, mais c'est comme dans les montagnes, il y a des érosions et parfois, eh bien, l'érosion se transforme en avalanche. C'est-à-dire, au lieu de monter, nous descendons dans la vallée. Et c'est quelque chose de catastrophique. C'est la cause de mort, d'hommes, de femmes, de toutes sortes d'êtres vivants. Mais Seigneur, l'Église, elle est là pour s'élever. Non pas pour elle-même, pour sa gloire, quantitativement, mais elle doit s'élever qualitativement, c'est-à-dire en qualité spirituelle. Seigneur, visite mes frères et mes sœurs. Ceux qui sont ici, Seigneur, eh bien, reçoivent et serrent dans leur cœur ta parole. Et nous voulons te remercier parce que si quelquefois nous sommes lassés, nous sommes fatigués, nous avons été éprouvés, nous avons été parfois, eh bien, humiliés, mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous as prévenus qu'on dirait toutes sortes de mal contre nous, qu'il y aurait des tribulations, qu'il y aurait toutes sortes de choses, en effet, qui sont difficiles à vivre. Mais Seigneur, tu nous dis, soyez heureux, parce que nous savons que c'est l'essentiel des béatitudes, mais nous ne voulons pas lâcher le morceau. Nous voulons aller plus loin encore. Alors bénis ton peuple, renouvelle ton peuple, rafraîchis ton peuple, envoie une nouvelle saison sur ton peuple. Et toi, tu sais le faire. Nous, si nous faisons une main humaine, alors nous allons tout casser et nous allons ouvrir la boîte de Pandore. Mais si nous le faisons, Seigneur, inspiré par ton esprit au bon moment, eh bien alors à ce moment-là, nous pourrons nous réjouir de la victoire. Non pas de la défaite de certains, parce que ça, c'est pas normal de se réjouir de la défaite de quelqu'un. Mais une chose qui, ça sera la victoire de Jésus, parce que tout ce que tu fais, c'est bon, c'est juste et c'est parfait. Merci Seigneur. Amen.